franceinter.fr.
La scène se passe donc il y a 30 ans, jour pour jour. Deux explosions dans la baie d'Auckland secouent un chalutier de 48 mètres. La première fait sortir tous les passagers, sauf un. La seconde tue le photographe Fernando Pereira, resté à bord pour récupérer son matériel. Le bateau s'appelle le Rainbow Warrior. Les militants de Greenpeace qui se trouvent là devaient appareiller quelques jours plus tard pour l'atoll de Mururoa, où la France procède à des essais nucléaires. Très vite, les soupçons se portent sur Paris, le gouvernement nie, puis, devant l'épreuve et les témoignages, finit par avouer. Ce sont bien les services secrets français qui sont dans le coup, ces mêmes services qui, à cette époque, procèdent à des écoutes téléphoniques illégales, l'autre scandale des années 80. 30 ans plus tard, Snowden et la NSA sont passés par là. 30 ans plus tard, et quasiment jour pour jour, la loi sur le renseignement est votée, qui permet maintenant de procéder à des écoutes sans avoir besoin de l'accord d'un juge. 30 ans après le Rainbow Warrior, les renseignements ont-ils tous les pouvoirs? C'est notre menu du jour.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et avec trois invités pour en parler, Edoui Plenel, bonjour.
Bonjour.
Cofondateur de Mediapart et également auteur de La Troisième Équipe, sortie aux éditions Don Quichotte il y a peu de temps. Troisième Équipe, où vous revenez sur cette affaire du Rainbow Warrior, puisque vous étiez journaliste au Monde à l'époque, et c'est vous, entre autres, qui avez contribué à ce que la vérité éclate. On aura l'occasion d'en reparler. Pascal Popelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député PS, spécialiste des questions de sécurité, et puis porte-parole à l'Assemblée nationale de la loi relative au renseignement. Là aussi, je pense qu'on aura abondamment de quoi en reparler tout à l'heure. Et puis, en duplex de Strasbourg, Gérald Arbois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, donc en duplex de Strasbourg. Merci d'ailleurs aux techniciens Radio France, à France Bleu Strasbourg. Et puis, comme tous les vendredis, nous ouvrons notre émission avec Marianne et Joseph Massé-Scarron. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler aujourd'hui de ce qui fait débat dans vos pages, Joseph Massé-Scarron. Ce qui fait débat, d'ailleurs, c'est plus qu'un débat aujourd'hui. C'est une petite bombe que vient de lancer Jean-Marie Le Pen dans le jardin du Front National, puisqu'il explique dans vos pages qu'en 2017, il y aura un candidat pour son courant, donc un candidat pour l'extrême droite, qui pourrait se retrouver en face de Marine Le Pen.
Oui, c'est la première fois qu'il le formule. Je vais même pas dire clairement qu'il le formule ainsi. Alors, il le formule en plus, pas au détour d'une phrase. Il le formule avec toute une argumentation de son point de vue, une argumentation d'ailleurs qui est assez traditionnelle, qui est celle de dire que de toute façon, pour empêcher Nicolas Sarkozy de refaire le coup, si je puis dire, de 2007, c'est-à-dire de siphonner les voix du Front National, il n'y a qu'un moyen, en tout cas, c'est d'adopter sa stratégie, c'est-à-dire de représenter l'extrême droite nationale, identitaire, libérale. Parce qu'il y a deux types, en gros, d'extrême droite en Europe. Il y a une extrême droite nationale, identitaire et libérale, et puis il y a, d'inspiration libérale, si on veut, et puis il y a une autre extrême droite qui, elle, est là aussi nationaliste, tout aussi xénophobe, mais plus avec des accents, je veux dire, un zeste, un parfum, si je puis dire, populaire, mais que le parfum. Hein. Donc, il met les pieds dans le plat. Il met les pieds dans le plat parce que il veut aller jusqu'au bout. Ça, c'est la preuve. Jusqu'au bout, c'est la présidentielle de 2017. Il ne souhaite pas que Marine Le Pen, en effet, se trouve dans une position phare. Et il est prêt, c'est pas lui-même personnellement, mais il est prêt à soutenir, en effet, un candidat issu de son courant, c'est-à-dire de sa sensibilité, entre guillemets, d'extrême droite.
Est-ce que vous dites aussi dans l'article, et ce qu'on comprend aussi à travers les lignes, c'est que cet homme qu'on disait sur la touche du FN il y a quelques semaines revient en force aujourd'hui?
Mais il revient en force parce que, de toute façon, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se battre. C'est d'ailleurs assez amusant parce que au même moment où on parle de cette question, de ce parricide qui est au cœur de la, en partie au cœur de la vie politique française, puisque c'est bien un parricide politique dont il s'agit. Il faut employer les termes. Avignon ouvre avec le roi Lear, donc c'est extrêmement, certainement un clin d'œil. Voilà, certainement un clin d'œil. Oui, parce qu'en plus le roi Lear a trois filles. Voilà, c'est assez drôle, comme Jean-Marie Le Pen. Plus sérieusement, il est en effet dans une position d'aller jusqu'au bout. Il connaît bien les statuts. On vient de le voir encore une fois. fois avec la deuxième claque, gifle, infligée à Marine Le Pen sur son congrès postal, comme il le dit. Et ce matin même, il y a la majeure partie d'ailleurs, des élus de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont FN, qui viennent de faire une motion, une pétition, je ne sais quoi, pour le soutenir.
En même temps, récemment, on parlait de Jean-Marie Le Pen, enfin de la saga Le Pen sur cette même émission, à ce même micro, exactement là où vous êtes assis, et 71% des sondages, des sympathisants FN étaient pour l'éviction totale de Jean-Marie Le Pen. 71% des sympathisants.
Oui, parce que là vous vous trouvez avec cette notion d'ailleurs dans les sondages de sympathisants. Vous avez aussi à droite une majorité de sympathisants de droite qui sont pour Alain Juppé. Je ne pense pas que ça change grand-chose pour les primaires. Donc on se trouve avec cette... Plus sérieusement, je ne pense pas évidemment que Jean-Marie Le Pen lui dit, c'est normal de son point de vue, qu'il représente la majorité silencieuse. Je ne pense pas qu'il représente la majorité silencieuse. Mais il a un pouvoir de nuisance aujourd'hui qui est important. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que la présence au second tour va se jouer à 3-4%. Et il suffirait en effet d'un candidat qui représente le courant de Jean-Marie Le Pen, soutenu en plus par Jean-Marie Le Pen, pour enlever ces 3 ou 4% à Marine Le Pen.
Joseph Massescaron, est-ce qu'aujourd'hui Jean-Marie Le Pen est en possibilité de présenter un candidat de son courant pour 2017 ?
Il est en tout cas en possibilité, oui, d'aider à l'apparition d'un candidat de son courant, totalement, tout à fait. Et il y a un certain nombre de personnes de la nébuleuse, je dirais, d'extrême droite identitaire qui sont déjà allées le voir.
Merci, Joseph Massescaron. Cette interview donc de Jean-Marie Le Pen à retrouver dans Marianne de cette semaine.
Merci.
À l'occasion des 30 ans de l'affaire Rainbow Warrior, on s'interroge aujourd'hui sur le pouvoir et le contrôle des services de renseignement. Pour les plus jeunes, le Rainbow Warrior, c'est un bateau de Greenpeace coulé par les services secrets français. Le débat de midi, c'est toute une équipe. Coyenne Guyenne réalise, Marjorie Bidot et Julien Charnet préparent les débats avec Antoine Cuny-Lecalais et Manon Frassini. Mention spéciale à Charles Brunet, venu en stage d'observation, qui a finalement mis la main à la pâte. Charles Brunet, 16 ans en première, avec qui on peut parler PIB, Napoléon ou réforme du collège, qui a dit que les jeunes ne savaient rien. Après le disque, on entendra le témoignage de Bunny McDiarmid. Elle est aujourd'hui directrice de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. Elle était sur le Rainbow Warrior le 10 juillet 1985. I'm falling down, oh. You were mine that day, I didn't give you a dime. Last Train s'appelle le groupe et le titre c'est Cold Fever. Il est midi 18 sur France Inter.
France Inter, le débat de midi.
Un débat consacré aujourd'hui aux renseignements et au pouvoir des renseignements avec Edoui Plenel, journaliste, Gérald Arbois qui est directeur de recherche sur le renseignement et Pascal Poplin, député très concerné par la question puisque porte-parole à l'Assemblée nationale sur la loi relative du renseignement, relative au renseignement, le 10 juillet.
Justement, porte-parole du groupe.
Oui, du groupe SCR. Exactement.
Socialiste républicain et citoyen, et nous y tenons beaucoup plus depuis quelques semaines.
Vous voulez dire depuis qu'un autre parti politique a changé de nom ?
Depuis qu'en tout cas ce terme a été confisqué, en tout cas a tenté d'être privatisé par une organisation politique.
Ouais. Le 10 juillet 1985, le Rainbow Warrior coule et en septembre, le Monde annonce que les charges placées sous le Rainbow Warrior ont été placées par la DGSE. C'est le récit de cette enquête que vous racontez dans votre livre, Edoui Plenel, La troisième équipe, souvenir de l'affaire de Greenpeace. Vous étiez journaliste à l'époque et vous avez suivi et trouvé finalement l'implication des services secrets français.
Oui, j'ai trouvé la carte qui, en la tirant, faisait tomber le château de cartes du mensonge officiel, qui prétendait que c'était une mission de surveillance, alors qu'en fait, c'est un acte de terrorisme d'État, commis sur ordre du pouvoir politique, jusqu'au plus haut sommet de l'État, comme je le raconte dans le livre, le président de la République de l'époque. Et si j'ai fait ce livre, c'est à la fois pour démystifier, raconter très concrètement comment on se bat pour faire son travail de journaliste et rendre service aux citoyens, à leur droit de savoir, mais c'est aussi pour dire que cette histoire d'il y a 30 ans est une histoire d'aujourd'hui, sur la déraison d'État, et sur la faiblesse de notre démocratie. Car vous vous rendez compte, 30 ans après, il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire sur cette histoire. Il n'y a pas eu d'audition. Les exécutants n'ont pas pu s'expliquer. Et surtout, les vrais donneurs d'ordre, c'est-à-dire les politiques qui instrumentalisent les services, qui instrumentalisent cette part du secret de l'État, eux ont échappé à toute sanction.
Charles Hernu a néanmoins dû démissionner.
Il est devenu le plus populaire qu'il n'avait jamais été après sa démission. Et surtout, sa démission était celle d'un pare-feu, puisque au fond, François Mitterrand était le premier. Vous savez quelle est la clé de tout cela. Nous sommes l'année de la COP21, des débats sur l'écologie, sur la protection de la planète. C'est sous la présidence de François Mitterrand qu'il y a eu le plus grand nombre d'explosions dans le sous-sol du Pacifique, d'explosions nucléaires. Et je regrette en ce jour anniversaire, j'étais avec Greenpeace, il y avait le patron de Greenpeace International.
Ce matin,
il y avait hélas très peu de monde, mais surtout, toutes leurs demandes, et notamment de la ville de Paris, pour qu'il y ait, vous ne l'avez pas rappelé, juste à l'instant, tout à l'heure, qu'il y ait une rue au nom de Fernando Pereira, notre confrère qui est mort dans cette histoire, journaliste photographe. Ça a été refusé par la ville de Paris, qui est une rue Pereira. Et puis, il n'y a pas eu même... ils se sont adressés au président de la République, qui va être le président de la COP21. Eh bien, j'aurais aimé qu'il salue ces militants pionniers du combat écologiste qui ont pris des risques et que nous avons violemment calomnié et au point de commettre ce crime.
En 1985, le colloque auquel vous assistiez, organisé par Greenpeace aujourd'hui, s'intitulait « Militants menacés, société civile en danger ». On aura évidemment le temps d'en reparler. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler au cours de cette émission. Mais Pascal Poplin, est-ce qu'une opération comme celle de Greenpeace en 85 pourrait aujourd'hui avoir lieu sans aucun contrôle parlementaire, vous qui êtes député ?
Alors je pense que beaucoup de choses ont changé. Vous avez dit, ça fait une trentaine d'années, c'est le 30e anniversaire.
30 ans tout rond.
C'est le moment où j'aurais pu être un stagiaire dont vous disiez du bien à l'antenne, puisque j'avais à peu près l'âge de celui dont vous avez parlé tout à l'heure et que nous avons vu dans le studio. Bon, qu'est-ce qui a changé ? D'abord, il faut dire que cette affaire était une monstrueuse erreur. Et que le fait de décider de faire sauter un bateau d'entraîner la mort d'une personne n'est absolument pas justifiable et ne peut jamais être justifié dans le cadre d'une action, d'une mission légitime de renseignement qui peut être celle d'un pays qui, à l'époque, voulait, en tout cas c'est la seule finalité qui est admissible, éviter qu'une organisation soit en situation de prendre des renseignements sur des modalités liées au mode de fonctionnement de l'arme nucléaire. Voilà. Si c'est cette finalité-là, il y a bien d'autres moyens qui permettent d'entraver une action de ce type qui la nuit aux intérêts du pays. Ce qui a changé également, c'est que, d'abord, dans le cadre de la loi telle qu'elle va être promulguée une fois le passage devant le Conseil constitutionnel, les agents seraient en mission officielle de l'État. Et donc l'État reconnaîtrait sa responsabilité immédiatement. Il y aurait une traçabilité. La deuxième chose qui a changé, c'est qu'une action comme ça serait immédiatement, par toute procédure contentieuse, jugée manifestement illégale, parce que disproportionnée par rapport à l'objet qu'on voulait lui donner. La mort d'un homme, couler un bateau, aujourd'hui, dans le cadre de ce qui est prévu par les textes, parce qu'il vaut toujours mieux qu'il y ait des lois plutôt qu'on soit dans la zone grise du non-droit.
Bon. Quitte à ce qu'elle soit pas très bien faite, du moins si on écoute notamment les associations de défense des libertés individuelles.
Ah, mais il y a toujours des gens qui sont là pour dire que les lois sont mal faites. Alors moi déjà, si c'était le cas, je préférerais toujours une loi mal faite à pas de loi du tout. Mais en l'occurrence, modestement, je considère que nous avons fait un travail sérieux, que nous avons fait un travail honnête, et que, d'ailleurs, on verra à l'usage, on verra d'abord ce que le Conseil constitutionnel va en dire, on verra ce que la Cour européenne des droits de l'homme en dira si elle est saisie d'un certain nombre de sujets. Et puis, comme pour la loi du 10 juillet 1991, qui n'était pas si mal que cela, même si on améliore considérablement les choses aujourd'hui, elle n'était pas si mal que ça, bon. Cette loi.
Ma question initiale, c'était quand même de savoir si des opérations comme celle de Greenpeace pouvaient se passer sans que le Parlement en soit informé. Alors, vous nous dites, les choses ont changé, mais vous ne répondez pas à la question.
Sans que le Parlement en soit informé, a priori, oui. La différence qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a une délégation parlementaire au renseignement qui serait en situation d'exercer ses missions de contrôle sur cela et que par ailleurs les mœurs politiques ayant évolué, évidemment, il y aurait une commission d'enquête parlementaire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la Constitution et dans le règlement de l'Assemblée nationale, tout groupe peut demander une commission d'enquête parlementaire et il y est fait droit.
Gérald Darbois, vous êtes donc chercheur sur la question du renseignement. Est-ce que aujourd'hui les choses vous semblent plus encadrées ?
Alors, les choses ne sont pas plus encadrées qu'elles ne l'étaient à l'époque. On est face à une opération qui pourrait se faire encore aujourd'hui, avec des agents de l'État qui ont toujours été des agents de l'État, puisque là on avait des militaires qui étaient détachés au service action de la DGSE, donc eux étaient couverts dans leur action. Elle n'était pas entachée d'aucune illégalité puisque la mission qui avait été donnée par le pouvoir politique a été remplie. La mort de l'homme, effectivement, on ne peut que la déplorer, mais c'est un dommage collatéral parce que l'objectif était de neutraliser le bateau, pas de neutraliser les hommes. Donc voilà, on est sûr de l'action clandestine qui, dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'elle a lieu tous les jours, mais elle a lieu régulièrement.
Pascal Poplin n'a pas l'air d'accord, et Edoui Plenel ensuite.
Non, je dis simplement que, manifestement, les moyens qui ont été utilisés à l'époque étaient totalement disproportionnés par rapport à l'objectif qui avait été assigné à cette mission.
Ce qui ne veut pas dire que je ne considérais pas en 2015 aujourd'hui,
pour ma part,
pas se passer ce qui s'est passé
en tant que parlementaire de la République, en essayant d'avoir un esprit de responsabilité. Empêcher une organisation non gouvernementale, fût-elle animée de motifs louables, de s'emparer d'informations qui sont classifiées secret défense, ça me paraît un motif légitime. En même temps, il doit être la réponse qui doit être apportée pour remplir cette mission doit être proportionnée, c'est ce que la loi dit, et manifestement, elle ne l'était pas.
Edoui Plenel.
Gérald Arbois parle d'or et... Excusez-moi, je pense que Pascal Poplin nous balade un peu et je vais expliquer pourquoi. Je vous vais expliquer pourquoi. Voilà. Il y a des services secrets, il y a un secret de l'État, il y a des gens qui ont ces missions-là au nom de la souveraineté et mon livre, La Troisième Équipe, leur rend plutôt hommage aux exécutants, aux lampistes d'une certaine manière. Le vrai problème, et c'est ce que je voulais dire en disant que par votre voix, la politique nous balade un peu, c'est la question de l'usage qu'en font les politiques. Il faut une loi sur le renseignement, bien sûr, mais il ne fallait pas une loi dans la précipitation, dans l'urgence, sans faire le bilan du passé, sans examiner, sans entendre des voix discordantes, sans en clair brutaliser le Parlement. Alors, bien sûr que ces missions ont lieu aujourd'hui. Tout récemment, nous avons révélé sur Mediapart, grâce aux mails de Madame Hillary Clinton, qui sont aux mains du Congrès américain, qu'il y a eu sous Monsieur Sarkozy le service Action sur le terrain en Libye. Y a-t-il eu une audition?
Le service Action qui donc dépend de la DGSE.
Bien sûr, le bras armé, le même qui a travaillé avec les nageurs de combat. Eh bien, il n'y a pas eu rien sur la Libye. Or, Dieu sait sur cette histoire libyenne s'il y a de l'ombre concernant la présidence précédente. La question du contrôle. Bien sûr qu'il y a une mission du renseignement, bien sûr qu'il y a maintenant une loi que je trouve liberticide, mais la question du contrôle, c'est que les contrôleurs ne doivent pas être eux-mêmes des gens qui sont habités par ce monde du renseignement. Ils doivent être extérieurs, ils doivent être non pas les représentants, comme l'a été M. Urvoas, du monde du renseignement à l'intérieur de l'Assemblée, mais être ceux qui veillent justement au regard critique. Prenez le bilan de la sécurité des attentats. Madame Wolensky vient de se constituer partie civile, elle a raison. Fiasco sécuritaire, l'attentat de Charlie Hebdo. Avant de dire qu'il faut de nouvelles lois et tout, comprenons ce qui se passe, c'est ce que font les démocraties vivantes. Je continue deux exemples encore. Par ailleurs, quand il y a contrôle, pourquoi faut-il que ce contrôle soit le plus distant possible? C'est que le renseignement, et c'est son métier, il sait fabriquer des légendes, vous le savez parfaitement à France Inter. J'ai dû affronter pendant le mois d'août 85, quoi, 3 jours où en boucle France Inter se faisait par la voix d'un de ses journalistes liés au service, le porte-parole du mensonge officiel, disant, excusez du peu, que c'était les services secrets britanniques qui avaient posé la bombe. Gilbert Picard, le confrère de l'époque, l'a reconnu dans un roman à clé. Et puis enfin, je voudrais rectifier quelque chose qu'a dit M. Popelin, parlant de Greenpeace en 85, il n'avait que 18 ans. Il dit aujourd'hui qu'il fallait se protéger de gens qui pouvaient chercher des renseignements. Non, c'était les protestations de la société civile. Il protestait. Je dis ça parce que M. Popelin est celui qui a détourné. Je voudrais expliquer le climat actuel. Il a proposé, je rappelle, sur Sivens, encore un écologiste qui a été tué, zone à défendre. Et c'est M. Popelin qui a fait cette proposition qu'on fasse des interdictions de manifester. C'est-à-dire qu'on criminalise, qu'on diabolise la société civile, celle qui veut exprimer des protestations. Ce que faisait Greenpeace dans le Pacifique était légitime. La suite l'a montré. C'était une alerte légitime. L'État français en son plus haut niveau, et encore une fois, les services ne sont pas en cause. Ils ont respecté ce qu'on leur a demandé de faire dans la précipitation, dans la catastrophe, d'où évidemment le loupé de cette opération. L'État français a décidé de diaboliser la protestation légitime qui était celle des pionniers de l'écologie, ce qu'on va célébrer au moment de la COP21.
Alors, puisque vous nous parlez de ces pionniers de l'écologie, je voudrais qu'on écoute, avant que vous réagissiez, Pascal Popelin, et vous aurez l'occasion...
Oui, enfin, c'est pas convenable. Je me fais mettre en cause, y compris des sujets qui ne sont pas les sujets du débat, mais et vous ne me laissez pas réagir. Donc moi, je veux bien réagir dans 3 minutes, mais ça n'aura plus de sens, parce qu'on aura oublié
rapidement sur
les mises en cause.
Rapidement sur Sivens.
Vous avez proposé qu'il y ait des interdictions de manifestants.
J'ai proposé...
En détournant la commission créée par Noël Lamarolle.
C'est vrai ? J'ai proposé qu'il soit possible, en tant que rapporteur de cette commission, et ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour.
Si, ça a à voir avec votre formule sur Greenpeace, où vous les accusiez de chercher des renseignements alors qu'ils protestaient.
Je veux bien continuer, parce que quand on met un élu devant, quelle que soit sa formation politique, devant Edoui Plenel, il voit rouge et il se le paye. Donc je vais essayer de faire mon travail de contre-pouvoir, c'est très bien. Je l'ai toujours défendu. Mais à un moment donné, ça doit pouvoir permettre aux autres de s'exprimer également et de rectifier un certain nombre d'erreurs. Ce que j'ai proposé dans ce rapport, et j'étais pas le seul à le faire, puisque ce rapport a été voté par la quasi-totalité des groupes, sauf par le président qui l'a proposé.
Edoui Plenel, est-ce qu'on peut juste jouer le jeu d'écouter l'argumentation de Pascal Popelin et ensuite vous pourrez réagir?
J'ai proposé simplement que des gens avait été condamné à plusieurs reprises parce qu'il cassait dans des manifestations, soit en situation que le pouvoir civil et le la possibilité de leur dire « vous ne devez pas vous trouver tel jour à tel endroit dans telle manifestation ». On peut considérer que c'est liberticide. Moi, je considère que simplement, ça protège la liberté de manifester parce que les gens qui veulent exprimer une opinion, quand ils vont dans une manifestation, ils n'ont pas envie que leur protestation soit détournée par des gens dont le métier, c'est de casser, c'est de casser du mobilier urbain, c'est de casser du flic, c'est de casser du manifestant aussi, parce que ça existe.
C'était le discours tenu sur Greenpeace à l'époque. C'est bon, pour ça que je rappelais cet événement.
Si,
à l'époque,
si on
la
peut revenir,
c'était que Greenpeace, si c'était des dangers, c'était le KGB,
si on peut revenir,
c'était les rouges, c'était
débat,
ça qui se disait ici même sur cette chaîne publique.
On n'en est plus là, tout de même.
Mais on n'en est plus là. Vous entendez ce discours sur les écologistes aujourd'hui? Est-ce que Monsieur Rimfrey voulait casser du flic?
Mais est-ce que
c'était un écologiste pacifique?
À aucun moment j'ai parlé des écologistes. Enfin, franchement, c'est une malhonnêteté intellectuelle sans nom que de faire un amalgame entre des gens qui sont des casseurs dans une manifestation et qui empêchent les gens qui veulent manifester.
Vous diabolisez la société civile de la même manière.
Je ne diabolise pas la société civile, je veux simplement quand il y a une manifestation, ce ne soit pas une manifestation qui se passe en ayant des vitrines qui sont cassées ou du mobilier urbain qui est pété.
Je pense qu'on a entendu vos arguments,
y compris ceux qui font les manifestations. Alors maintenant, si on peut
renchérir l'un sur l'autre, ne sert ni l'un ni l'autre.
Je veux bien,
parce que le discours devient absolument inaudible.
Si il est possible de quand même dire une autre chose qui est inexacte dans ce qu'a dit Edoui Plenel, c'est que les moyens dont disposait ce bateau, qui par ailleurs avait une manifestation de protestation par rapport aux essais nucléaires, on en pense ce qu'on en veut, et je suis...
J'aimerais vous entendre dire qu'elle était légitime.
De mes 18 ans de l'époque, je peux vous dire que j'étais plutôt sympathisant de cette cause-là.
Il serait le temps de le dire aujourd'hui.
Il est temps.
Alors, enfin, on a dénucléarisé le Pacifique malgré
la
France.
Puisqu'il est temps, je le dis. Simplement, de ce que je sais, même si mes informations, compte tenu de ce que j'étais à l'époque et du temps qui s'est passé, je l'ai dit avec toute prudence, mais il y avait des appareillages dans ce bateau qui permettaient d'obtenir un certain nombre d'éléments sur la manière dont on opérait.
Aucun élément factuel ne le prouve.
En tout
alors,
cas,
je voudrais qu'on écoute.
Aucune information ne prouve ce que vous venez de dire.
Si tel est le cas, et seulement si tel est le cas, comme ça on va être prudent, on ne va pas refaire l'histoire, il n'est pas illégitime qu'un État ait la vocation de se protéger de cela. Mais en tout cas, il est parfaitement illégitime que pour se protéger de cela, il utilise des moyens qui soient...
Vous êtes en train encore de laisser entendre que l'opération des services secrets contre Greenpeace pouvait être légitime.
Non, je ne dis pas cela.
C'est ça que
vous
êtes en train de dire.
Disproportionnée. Mais on m'a posé la question de savoir si aujourd'hui, quelque chose pourrait se reproduire du même type. Je réponds très clairement
avec des gardiens
que si
comme vous,
les intérêts de l'État sont en cause, mais mal gardé, avec des gens qui veulent ne pas voir la réalité de la menace qu'il y a contre notre pays et contre notre société.
Arrêtez de vous envoyer mutuellement des pics, sinon on n'avancera pas et on risque de tourner en boucle.
Faux qui ont été dits tout à l'heure dans la longue tirade d'Edoui Plenel, puisque lui ne me laisse pas parler, et sur lesquels je souhaiterais
vous
revenir.
Vous avez eu aussi un temps de parole relativement long, je peux vous le garantir.
Mais constamment interrompu.
Je voudrais faire écouter le témoignage de Bunny McDiarmid. Elle est aujourd'hui directrice de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, et elle était sur le Rainbow Warrior ce 10 juillet 1985. Elle avait 28 ans à l'époque, et je l'ai interviewée hier par téléphone.
J'étais l'une des membres de l'équipage du Rainbow Warrior, où j'officiais comme matelot. Nous étions ensemble sur le bateau depuis une assez longue période, 6 ou 7 mois. C'était l'hiver en Nouvelle-Zélande. Il faisait froid. On s'attelait à la tâche sur le bateau pour faire en sorte qu'il reparte en direction de la Polynésie française. Ce soir-là, nous fêtions l'anniversaire de l'un des membres de l'équipage. Ensuite, vers 22h, je suis partie rendre visite à mes parents que je n'avais pas vus depuis longtemps. L'un de mes équipiers, Martin Gauthier, m'a appelé vers 2 ou 3 heures du matin pour me dire que le bateau avait été coulé et que Fernando avait disparu. Je me suis rendue aussitôt vers les quais. Ce n'est qu'une fois que nous avons vu le bateau sombrer que nous avons réalisé ce qui se passait. C'était vraiment un immense choc pour toute la Nouvelle-Zélande et pour Greenpeace. Mais la pire des choses dans tout ça, c'était la mort de Fernando.
Le photographe.
Fernando Pereira.
Oui. Oui, c'est difficile de pardonner. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de justice pour ce qui s'est passé pour Fernando.
Et avez-vous imaginé à l'époque que les services secrets français aient pu être derrière cette action ?
Non, jamais. Ça ressemblait plutôt à un scénario de film. Et je voudrais ajouter qu'après coup, nous avons compris que, pour nous, c'était la fin de l'innocence. Nous avons réalisé jusqu'où un État était capable d'aller pour arrêter des manifestants, qui puisaient des pacifistes.
Et pensez-vous qu'aujourd'hui les services secrets ont un pouvoir équivalent à celui dont ils jouissaient il y a 30 ans ?
Certainement. Je pense que les agissements de certains services secrets de certains États sont pires qu'il y a 30 ans. Observons ce qui se passe aux États-Unis avec les dispositions juridiques qui permettent des assassinats dans d'autres pays par des agents secrets américains. On ne doit jamais sous-estimer ce que peuvent faire les États avec les services secrets. Ce 30e anniversaire doit être l'occasion de rendre hommage à l'activisme politique, parce qu'il joue un rôle important dans les démocraties dignes de ce nom. La Nouvelle-Zélande a été le premier pays à donner le droit de vote aux femmes. L'activisme politique a également permis de débarrasser ce pays du nucléaire. Ça a été possible grâce à l'activisme politique. C'est important que les gens se lèvent pour affirmer ce qu'ils souhaitent pour leur pays. C'est encore plus important aujourd'hui qu'il y a 30 ans de défendre et de faire vivre ce type de mouvement en France comme en Nouvelle-Zélande.
Voilà le témoignage de Bunny McDiarmid, qui est aujourd'hui directrice de Greenpeace en Nouvelle-Zélande et qui était à bord du Rainbow Warrior il y a exactement 30 ans. Une émission consacrée aujourd'hui au renseignement, au pouvoir des renseignements avec Edoui Plenel, qui est journaliste, comme vous le savez, et auteur d'un livre sur le Rainbow Warrior, sur l'affaire du Rainbow Warrior. Pascal Poplin, qui est député, porte-parole du groupe socialiste, républicain et citoyen à l'Assemblée nationale sur la loi relative au renseignement. Et puis Gérald Arbois, qui est directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Gérald Arbois, ce témoignage qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui vous évoque ?
C'est le témoignage d'un témoin qui a vécu un traumatisme et donc qu'il faut prendre en fonction. J'aborderai pas la dimension politique parce qu'elle a été abordée précédemment et effectivement on tournerait en rond.
Ne rallumez pas la mèche.
Non, je veux pas la rallumer. Il faut quand même se remettre dans le contexte géopolitique de l'époque. On a quand même deux dimensions qui sont importantes pour pouvoir comprendre pourquoi on a mené une telle opération et avec une telle débauche de moyens. Et encore, la débauche de moyens, elle n'est pas si évidente que ça, parce que en théorie, et j'insiste bien sur le « en théorie », on ne devait couler qu'un bateau. C'est-à-dire qu'on ne devait pas tuer quelqu'un. Et si le photographe n'était pas remonté sur le bateau après la première explosion pour récupérer son matériel, il n'aurait pas été surpris par la seconde explosion qu'il l'a précipité dans l'eau et il est mort noyé. Il ne faut pas non plus faire des saints avec des gens qui ont fait leur boulot et qui sont décédés parce qu'ils étaient motivés par leur information et par les photos qu'ils avaient faites. Pour revenir au contexte politique de l'époque, il est double. Le premier, c'est qu'on était en pleine guerre froide. Et en pleine guerre froide, c'était rapide d'accuser quelqu'un d'appartenir à l'autre camp et de mettre en place des moyens d'écoute. Et là, Monsieur Plenel peut en parler comme témoin également. Mais des moyens moins doux, on va dire, ou des moyens doux, comme la subversion. Cet esprit de guerre froide est derrière l'action intentée contre Greenpeace, parce qu'à cette époque-là, Greenpeace était suspecté d'être financé par le KGB. On n'en a pas les preuves, mais ça n'est que pour replacer l'affaire dans son contexte.
Gérald Darbois, est-ce qu'il n'y avait pas, pour en tout cas spécifiquement cette affaire Greenpeace, une sorte de débauche de moyens? On a vu un bateau loué, des agents qui viennent de Nouvelle-Calédonie, ensuite des agents qui repartent une fois l'affaire faite au Liban, en Israël. On a retrouvé sur place d'ailleurs des canaux avec des empreintes digitales, des bouteilles d'oxygène de fabrication française. Donc à la fois une débauche de moyens et en même temps tellement d'indices laissés sur place qu'on se demande s'il n'y avait pas une volonté de laisser une signature.
Mais il n'y a pas de débauche de moyens. Il y a eu une utilisation de moyens pour remplir une mission qui était assignée par le pouvoir. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Oui, il n'y a eu que des erreurs sur cette affaire. La première erreur, ça n'est pas de choisir une méthode classique, c'est-à-dire agir contre les moyens de navigation plutôt que de la subversion. Ça, c'était le temps qui était imparti pour mener l'opération. Elle a été décidée, enfin, l'alerte a été donnée le 1er mars. Le 19 mars, le ministère de la Défense a donné l'ordre à la DGSE de s'en occuper. Et fin mars, on a les premiers agents qui partent pour infiltrer Greenpeace. Donc on est sur quelque chose qui se monte rapidement, alors qu'une telle opération aurait dû prendre 1-2 ans.
Il est midi.
Non, allez-y.
Non, je voulais juste donner l'heure. Il est midi 43 sur France Inter et on continue, on avance dans cette émission. Le pouvoir des renseignements en question dans ce débat de midi. Et dans quelques instants, on sera au téléphone avec un ancien des services secrets, justement, comment ça fonctionne de l'intérieur. Ce sera juste après Arthur H.
Je voudrais passer à travers ton corps. Forcer la serrure de ce coffre-fort, réchauffer ton sang, lécher la blessure, lécher la blessure, car je suis une femme qui pleure, une femme qui pleure. Une femme qui pleure, mais aucune larme ne coule, ne coule.
Une femme qui pleure, c'est le titre de ce très beau morceau d'Arthur H. Et toute la programmation musicale du débat de midi est à retrouver sur le site franceinter.fr.
Le débat du midi, Thomas Chauvineau sur France Inter.
Un débat consacré aujourd'hui au pouvoir des renseignements avec Edoui Plenel, journaliste, Gérald Arbois qui est directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement et Pascal Popelin, député qui travaille sur cette question. Nous sommes aussi au téléphone avec Claude Faure. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes un ancien de la DGSE et vous étiez d'ailleurs en poste au moment de l'affaire du Rainbow Warrior. Est-ce que les choses ont changé depuis ? Cette question rituelle que je pose à chacun présent dans cette émission.
Mais quand vous dites changer, c'est dans quel sens que vous envisagez ce changement ?
Pour le dire autrement, est-ce qu'une opération telle que celle qui a eu lieu le 10 juillet 1985 pourrait avoir lieu le 10 juillet 2015 ?
Oui, ce type de mission pourrait être à nouveau confiée à la DGSE, oui, bien sûr. Mais peut-être de manière plus cadrée, puisque les situations ont changé. Même si les moyens des services ont augmenté, les missions sont mieux recadrées, plusieurs garde-fous ont été mis en place.
Qu'est-ce que ça veut dire une mission mieux cadrée, Claude Faure ?
Bien, d'abord, ces derniers temps avec la loi sur le renseignement, où comme l'a dit un de vos invités, maintenant la responsabilité politique est reconnu dans les textes, premièrement. Deuxièmement, après la réforme qui a été lancée entre 2007 et 2008, il y a de nouvelles instances qui se sont mises en place, avec un Conseil national du renseignement, un coordonnateur du renseignement, avec une délégation parlementaire. Donc, les activités des services de renseignement sont mieux encadrées. Voilà ce que je peux répondre dans l'immédiat.
Mais est-ce que cet encadrement vous paraît, vous, ancien des services secrets, suffisant ?
Comme l'a dit M. Plenel, là, je suis d'accord avec lui, les services de renseignement remplissent les missions qu'on leur confie. Après, ce qu'en font les responsables politiques, ça leur échappe totalement.
Merci d'avoir été au téléphone avec nous en direct, Claude Faure. Donc, je le rappelle, vous êtes un ancien de la DGSE. Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, notamment Didier qui nous dit, l'on voit bien à l'occasion de cette émission, l'état de la démocratie en France et combien les États comme le nôtre, qui mettent les droits de l'homme et cette démocratie à toutes les sauces, marchent vers toujours plus de répression. Pascal Popelin.
Non, mais je ne vois pas sur quoi est étayé cet élément. Au contraire, on va vers de plus en plus de contrôle, on va vers de plus en plus d'encadrement, on va de plus en plus vers de plus en plus de transparence sur des matières où chacun reconnaîtra quand même que on peut pas non plus tout poser sur la table, sinon ça n'a plus aucune opérationnalité. Et je voulais dire, par rapport à une chose qui a été affirmée tout à l'heure par Edoui Plenel, en disant on a fait cette loi sur le renseignement en urgence. D'abord, j'observerai que la France est une des dernières grandes démocraties à se doter d'un texte réglementant les pratiques de renseignement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut quand même mieux avoir des règles que de ne pas en avoir. Deuxièmement, pendant deux ans...
Néanmoins, cette loi est passée en procédure d'urgence.
Non, mais la procédure...
Factuellement, Edoui Plenel a raison.
Vous pouvez pas... Ce qu'on appelle la procédure d'urgence, ça veut dire qu'il n'y a pas de lecture à l'Assemblée et au Sénat. En même temps, aujourd'hui, tous les commentateurs considèrent qu'on met trop de temps à légiférer. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est le travail qu'on fait en amont. Ça fait deux ans qu'un certain nombre de parlementaires, Jean-Jacques Urvoise en particulier, un peu moi-même, travaillons sur ces questions. Et par ailleurs, quand on dit que le Parlement a été brutalisé, alors que je connais peu de textes qui ont connu autant d'évolutions entre le projet de loi du gouvernement et la version finale qui a été adoptée, je pense simplement que là, on fait des effets de tribune et des effets de manche, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Alors après, on peut dire que le texte n'est pas bon, qu'il ne prévoit pas ceci ou qu'il ne prévoit pas cela. On peut en discuter sur le fond, mais évitons les anathèmes généralistes qui jettent un halo de fumée sur quelque chose qui n'est pas la réalité.
Puisque vous avez cité Jean-Jacques Urvoas, je voudrais vous lire ses propos qu'il avait écrits, je crois, dans un rapport publié en décembre dernier, sur qui s'appelait d'ailleurs « Contrôler les services de renseignement », donc les propos de Jean-Jacques Urvoas. « Nos services ne sont ni secrets ni spéciaux, ils sont une part consubstantielle d'un pouvoir démocratique », Edoui Plenel.
Je n'ai aucun problème avec ça, et je l'ai dit déjà il y a 30 ans, y compris dans un article qui était un plaidoyer pour les lampistes. La question que vous posez de manière récurrente dans cette émission, est-ce que de telles missions seraient encore possibles ? C'est une question, mais la question véritable n'est pas est-ce qu'elles seraient possibles. Elles sont possibles, elles ont lieu. Nous avons révélé que François Hollande, puisque notre pays est engagé sur plus de guerres que jamais sous la Ve République, est un président de la République qui aujourd'hui ordonne des exécutions extrajudiciaires ou même service-action de la DGSE. Cela a lieu. Cela a lieu comme, je le rappelle, sous la présidence précédente, il y a eu des hommes au sol du service-action en Libye. Donc le vrai problème pour moi est à la fois celui du contrôle et d'un contrôle réellement indépendant, d'un contrôle permettant un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir.
Quelle devrait être dans ce cas la nature de ce contrôle ?
Mais j'y viens. Et d'un contrôle vraiment indépendant et d'une responsabilité des politiques qui soit assumée. Je rappelle que nous sommes une démocratie qui, à la différence de la démocratie américaine, où Dieu sait s'il y a parfois des dérapages, des crimes, mais il y a néanmoins des rapports, il y a néanmoins des sursauts parlementaires. Je rappelle que le Patriot Act, on connaît tout de ces dérapages. 10 ans après, on a tout sur la torture. Il n'y a pas de Freedom of Information Act en France. Il existe depuis 67 aux États-Unis. Il existe depuis 2000 en Grande-Bretagne. La loi de renforcement de la protection des sources des journalistes qui était promise, elle est encalminée, notamment à la demande de M. Urvoas depuis 3 ans à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que moi, il ne me choque pas que l'on fasse évidemment un cadre pour les services de renseignement. Mais ce qui me choque, c'est qu'à côté, non seulement on ne fait rien pour renforcer le droit de savoir des citoyens, mais on continue, et c'est pour ça que je réagissais vivement tout à l'heure, à avoir une culture qui est celle qui criminalise, qui délégitime la société civile. Dire aujourd'hui, 30 ans après, que le mouvement Greenpeace, d'une part, aurait pu abriter des missions de surveillance, qu'il aurait pu être lié au KGB, ce qui était la légende fabriquée, y compris contre moi-même.
Personne n'a prétendu
En 85. Non, oui, mais si, j'ai entendu. C'est pas Monsieur Gérald Darbois. Il faisait que répéter ce que disait le monde des services. Ce monde des services fabrique des légendes. Il est fait pour ça. Et donc, ce qui est grave pour moi, et c'est ce que je disais à l'attention de M. Popelin, comme je l'aurais dit à l'attention de M. Urvoas, c'est d'avoir des élus, des parlementaires, qui plutôt que d'être la vigilance de la volonté nationale, de l'ensemble du peuple, et notamment du respect du droit de savoir des citoyens, soient plus le relais d'un verrouillage au niveau du pouvoir exécutif de cette part d'ombre nécessaire de l'État.
Que nous avons à la fin de cette émission, évidemment, la parole à Pascal Popelin, donc député du Parti Socialiste.
Nous avons un accord principiel, c'est qu'effectivement, ces activités doivent exister, et puisqu'elles sont potentiellement, et pas que potentiellement, peuvent porter atteinte aux libertés individuelles, il faut qu'elles le soient de manière encadrée, avec une responsabilité politique et un contrôle. Là où je diverge, c'est sur l'appréciation qui est portée, sur les modalités, par exemple, de contrôle que nous avons mises en place. N'est pas eu, Edoui Plenel, des parlementaires qui ont été le relais de la volonté, de l'opacité, etc. Quand vous regardez les amendements qui ont été adoptés, quand vous prenez le texte tel qu'il était au départ proposé par le gouvernement, déjà un net progrès dans les moyens de contrôle, par exemple la nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par rapport à celle des interceptions de sécurité aujourd'hui. Bon, mais nous avons considérablement augmenter les moyens de contrôle à l'occasion de ce débat parlementaire. Vous pouvez considérer que c'est insuffisant ou inopérant, mais en tout cas, ne dites pas que les parlementaires ont été les relais et le lobby de ceux qui veulent l'opacité.
On n'a plus le temps de repartir sur un autre débat.
C'est la commission consultative des droits de l'homme.
Edoui Plenel, on n'a plus le temps de repartir.
Mais non, ils se sont prononcés.
On n'a plus le temps de repartir sur un autre débat. Et par ailleurs, le Conseil constitutionnel tranchera cette question, puisque la loi passe au Conseil constitutionnel.
surnommé.
Merci, merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous. Et j'insiste, s'il vous plaît, merci d'avoir été en direct avec nous. Mais ce soir, Fabrice Drouel consacrera son émission Affaires Sensibles à l'affaire du Rainbow Warrior.